L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Le retrait des troupes françaises du Niger débute cette semaine. À cette occasion, annoncé par Paris et confirmé par les nouvelles autorités nigériennes, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Niamey Naala Haruna, secrétaire général du Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique. Avec lui, nous allons discuter du contexte et du calendrier du retrait des soldats français du pays. Et pour élargir et approfondir le sujet de la présence militaire occidentale sur le continent, Alesia Miloradovic, enseignante-chercheuse à l'Académie de géopolitique de Paris, nous a fait l'honneur de venir dans nos studios à Moscou. Avec elle, nous allons décortiquer les enjeux géopolitiques, militaires et économiques de la nouvelle tentative de déplacer le siège du commandement américain pour l'Afrique, de Stuttgart en Allemagne vers un pays africain. Les rumeurs désignent le Maroc ou le Libéria comme des candidats probables qui subiraient actuellement des pressions par les États-Unis dans le but de les amener à accepter. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Monsieur Naala Haruna, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Merci bien, bonjour.
La première question, monsieur, les troupes françaises amorcent leur retrait du Niger cette semaine, selon l'état-major des armées françaises. Alors, quelle est votre analyse de cette décision?
Cela fait suite à un communiqué après la prise du pouvoir du CNSP le 26 juillet 2023. Le 3 août 2023, le gouvernement nigérien, le gouvernement de la transition avait dénoncé, si vous vous rappelez, les accords militaires qui nous lient avec la France.
Oui.
Si aujourd'hui nous sommes à ce stade de retrait, c'est la conséquence logique de la dénonciation des accords militaires de l'État du Niger et ses accords entre l'État du Niger et la France.
D'accord. Alors, dans ce cadre, monsieur Haruna, l'état-major français a assuré que le retrait de ses soldats se passera en bon ordre. Alors, en sécurité et en coordination avec les Nigériens. Pouvez-vous expliquer pour nos auditeurs quel rôle va jouer l'armée nigérienne dans ce processus?
Oui, merci bien de la question. Et là aussi, il faut souligner qu'il y a un changement de cap de l'État français. Parce qu'au début, la France avait voulu faire une diversion en refusant son retrait pour dire que les autorités ne sont pas légitimes. Donc ici, avec ce message, nous constatons tout simplement que l'État français est devenu très petit parce qu'au début, ils avaient une position de ne pas reconnaître les autorités qui sont en place. Si aujourd'hui, ils disent qu'ils veulent un retrait avec beaucoup plus de calme, ça veut dire qu'ils vont reconnaître obligatoirement la légitimité du gouvernement en place et ensuite amorcer des discussions dans lesquelles ils vont demander, puisque là, c'est la France qui va demander les retraits. Mais pour les Niger, le peuple nigérien, nous avons chassé ces militaires français du Niger. Maintenant, s'il y a une discussion qui reconnaît nos autorités, donc, nos forces de défense et de sécurité, l'armée nigérienne allait veiller au plus petit détail le départ de ces Français. Parce que vous le savez, nous sommes dans une position de guerre avec la France. Mm-hmm. Donc, si un ennemi se dit qu'il va quitter, il faut veiller. Voilà le rôle de l'armée nigérienne. Nous allons veiller pour que les Français, au plus petit détail, qu'on soit convaincus qu'ils vont quitter. Voilà le rôle de l'armée nigérienne et du peuple nigérien. Et de toutes les manières, ils savent qu'ils vont partir.
D'accord. Donc, si j'ai bien compris, l'opinion publique considère la présence française comme encore une sorte ou une forme de colonialisme, de néocolonialisme. Pourquoi le peuple nigérien demande ce départ?
Voilà, le peuple nigérien demande le départ parce que si vous prenez même dans leur argument, celui de dire qu'on est venu nous sauver du terrorisme, avec la présence aujourd'hui des nombres même qui est annoncé, plus de 3000 militaires français au Niger, en 10 ans, nous n'arrivons pas à mettre un terme au terrorisme. Ça veut dire que sur ce plan, il y a un échec cuisant de la part de la France. Et d'autre part, nous avons des raisons bien fondées que la France, au lieu de nous aider à lutter contre le terrorisme, la France est l'aînée. C'est la France qui crée, qui arme, qui donne des renseignements et des munitions aux groupes terroristes. Aujourd'hui, elle ne fait plus l'ombre d'aucun doute. À part son échec, la France entretient ce mouvement de terrorisme dans notre pays. Voilà pourquoi l'opinion publique nigérienne demande le départ pur et simple de la France de chez nous.
Bien, alors j'aimerais bien rebondir sur ce que vous venez de dire juste là et vous poser l'autre question. Parce que les premiers soldats qui vont quitter le territoire nigérien seront les 400 actuellement déployés à Walam, le long de la frontière du Mali, entre le Mali et le Niger. Alors, ces soldats, quelle était leur mission dans cette zone et pourquoi ils seront les premiers à plier bagages?
Ces soldats, comme ils le disent dans un premier temps pour nous tromper, ils disent qu'ils sont venus nous aider à lutter contre le terrorisme. Les soldats qui se trouvent actuellement à Walam sont des soldats français qui prétendent venir dans une mission qu'on appelle Al-Mahou. Al-Mahou, c'est une mission qui a été dédiée pour la sécurisation de la zone de l'Iptako-Gourma. Mais or, quand vous faites une analyse aujourd'hui, la zone de l'Iptako est la zone la plus exposée aux attaques terroristes. On a vu que cette zone, malgré leur présence, n'échappe pas aux affres des groupes terroristes. Mais on se demande quel est leur rôle du point de vue de leur appui qu'ils disent venir apporter aux Nigériens. Quand nous avons un pic de terrorisme dans la zone. C'est pour cela qu'on a dit, et pour le peuple nigérien, ces soldats devront être le premier à quitter parce que nous avons une coalition désormais qui est créée entre le Mali, le Burkina et le Niger. Donc, vous savez très bien qu'ils ont été chassés du Mali. Donc, il n'y a aucune raison que le Niger dans la zone puisse recevoir des forces françaises. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est que, normalement, quand ils quittent la zone, nous, c'est une manière de mettre fin aux velléités terroristes dans la zone. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas accepter, dans cette zone où nous avons une coalition de 3 pays, des Français qui soutiennent les terroristes. Voilà la deuxième raison pour laquelle il devra être le premier à quitter.
D'accord. Alors, une dernière question, Monsieur Haruna. Pourquoi ce sont les militaires qui sont déployés ou stationnés à Niamey, à la capitale nigérienne, qui partiront en dernier? Pourquoi ce choix?
Ouais, comme vous le savez, les choix étaient partis du fait que le gouvernement du Niger a dit que la France ne donnera aucune marge de manœuvre de leur départ. Il faut que le gouvernement nigérien puisse avoir un calendrier avec lequel la France va travailler pour son départ. Donc, ici, les militaires qui sont dans la base 101 à Niamey peuvent être les derniers dans le sens où, à l'intérieur de cette base, ils sont contrôlés. Ils n'ont aucune marge de manœuvre à soutenir les terroristes. Donc, ici, à Niamey, vous savez, nous avons une disposition devant la base du peuple qui se manifeste nuit et jour. Donc, même s'ils sont les derniers à partir, leur comportement est surveillé de près. Donc, ils ne peuvent plus constituer un danger. Mais par contre, ceux qui sont à l'intérieur du pays, leur petit mouvement peut nous échapper. Voilà pourquoi, même s'ils seront les derniers à partir, ils ne constituent plus un danger parce que nous contrôlons leur mouvement ici à Niamey. Et aujourd'hui, là où ils sont, je vous dis qu'ils ne peuvent aller nulle part. Le mouvement est contrôlé par le peuple nigérien et par l'armée nigérienne. Et d'autres raisons est que toutes les bases qui sont à l'intérieur du pays, ils vont passer par là pour leur acheminement là où la France décide de les amener.
C'était Nahla Haruna, secrétaire générale du Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, est un commandement unifié créé par le département de la défense des États-Unis en 2007 et entré en fonction en 2008. Il coordonne toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis sur le continent africain. L'AFRICOM est responsable de l'ensemble du continent africain, à l'exception de l'Égypte, qui reste sous le commandement central, c'est-à-dire celui dédié au Moyen-Orient. Il englobe également les îles du Cap-Vert, de la Guinée équatoriale, de Sao Tomé et Principe, ainsi que les îles des Comores, de Madagascar, de Maurice et des Seychelles, situées dans l'océan Indien. Il est actuellement doté de plus de 3600 soldats. La position de la majorité des pays africains à l'égard de ce qui se passe actuellement en Ukraine et la présence de plus en plus forte de la Chine et de la Russie en Afrique préoccupent au plus haut niveau les autorités US, notamment quant à l'éventualité de voir des bases militaires, particulièrement navales, chinoises ou russes en Afrique de l'Ouest. Le commandant de l'AFRICOM, le général Michael Langley, a dernièrement été auditionné par la Commission des forces armées du Sénat américain et a révélé que son état-major explorait des zones en Afrique de l'Ouest pour y installer un centre de commandement. En cas d'installation d'une base chinoise en Afrique de l'Ouest, cela changera tout le calcul des plans stratégiques de campagne mondiale visant à protéger la patrie, dit-il. Si les Chinois renforcent leur capacité sur la côte ouest d'un point de vue géostratégique, cela leur donnera un avantage, a-t-il encore ajouté lors de son audition. En cas de conflit armé, la République populaire de Chine pourrait tirer parti de son empreinte militaire élargie pour projeter sa puissance contre les États-Unis, nos alliés ou le commerce mondial. Ils exploitent déjà leur puissance économique en Afrique pour influencer la politique de l'ONU et protéger leurs accès aux ressources naturelles comme les minéraux et la pêche, a-t-il encore expliqué. Un peu plus d'une semaine après cette audience, le président Weah du Liberia, sur invitation, a effectué une visite unique au siège de la Central Intelligence Agency, la CIA, américaine en Virginie. Et malgré le silence imposé sur la réunion, le média Front Page Africa a appris de sources proches de la réunion que le message était clair de la part de l'agence américaine d'espionnage. L'Amérique a besoin de stabilité au Liberia afin de s'associer avec les pays dans sa lutte contre les Russes et les Chinois. Le 16 mars 2023, dans le cadre de la réunion du comité des forces armées du Sénat, le sénateur Dan Sullivan, dernier, avait plaidé pour une installation du siège de l'AFRICOM au Maroc, pays qu'il avait qualifié d'excellent candidat. Alors, vu l'état de leur économie, les États-Unis ont-ils vraiment les moyens de leur politique en Afrique? Quelle relation pourrait avoir cette nouvelle ambition militaire pour l'Afrique avec les résultats du dernier sommet des BRICS en Afrique du Sud? Pour discuter de ces questions fondamentales, chers auditeurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Alizia Miloradovic, enseignante-chercheuse à l'Académie de géopolitique de Paris. Alizia Miloradovic, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour. Bonjour, chers amis.
Bonjour, madame. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir parmi nous. Alors, la première question, donc, comme tout le monde connaît, on peut faire la guerre certainement, quand on veut la faire ou décide de la faire, mais il faut avoir d'abord le nerf de la guerre, comme on dit. On ne peut pas se jeter dans une guerre sans avoir les reins solides d'un point de vue économique et financier pour soutenir l'effort de guerre. Alors, de ce point de vue, le montant de la dette fédérale des États-Unis a atteint les 33 000 milliards de dollars. 33 000 milliards de dollars. Et néanmoins, cette dette, elle est juste une partie de la dette globale, parce que la dette totale américaine, qui se calcule en y incluant, en plus de la dette fédérale, les dettes des ménages, des entreprises, des 50 États de l'Union, des institutions locales et des institutions financières, atteint la somme astronomique de près de 103 000 milliards de dollars, soit près de 400% du PIB américain et 97% du PIB mondial. Et ça sans compter les engagements spéculatifs, parce que si on y rajoute ça, moi je pense qu'on pourrait arriver au double de cette dette. Alors, Alizia Miloradovic, que pensez-vous de toutes ces données? Et est-ce que les États-Unis ont-ils encore les moyens de faire les gendarmes dans le monde, notamment en Afrique?
À propos d'argent, comme on a dit, budget militaire des États-Unis, bien sûr, ces dettes, ça n'empêche pas pour les États-Unis de faire la guerre. C'est au contraire. Les dettes et le motif de les États-Unis de faire la guerre. Mm-hmm. Et les dettes, normalement, c'est problème des créditeurs. Hein. C'est pas problème des États-Unis. Hein. C'est problème des créditeurs. Comment ils peuvent récupérer d'argent? Les États-Unis, bien sûr, ils sont encore en puissance mondiale. C'est assez fort. Ils restent forts. Quelques temps. Et bien sûr, notamment en Afrique, il faut avoir quelques informations, il faut préciser. Par exemple, on peut dire que c'est la quatrième ou même cinquième présence des États-Unis en Afrique. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis avaient la relation avec l'Égypte, mm-hmm. à cause de la chaîne de Suez, avec l'Éthiopie. Mm-hmm. Et c'est absolument normal. Mm-hmm. Et Libéria, bien sûr, parce que c'était leur
pays qu'ils ont eux-mêmes créé.
Leur projet. Et c'est pas beaucoup des intérêts des Américains pour l'Afrique.
D'accord.
Mais des années 60, et les Américains, ils commençaient à intéresser mm-hmm. par l'Afrique, par l'État. Mais surtout, ce n'est pas pour développer quelque chose en Afrique. Surtout faire mal pour la Russie, pour la Soviet Union.
D'accord, pour l'Union soviétique.
Oui. À 90, les États-Unis, ils sont disparus de l'Afrique. Presque complètement disparu. Mm-hmm. C'était jusqu'à 1998.
D'accord.
Vous vous souvenez, c'était un acte de terrorisme contre...
Oui, à Dar es Salaam et à Nairobi.
Oui,
contre les ambassades américaines.
Oui, à Tanzanie, c'est 250 personnes qui étaient tuées. Et bien sûr, les États-Unis considéraient cet acte contre les intérêts nationaux des États-Unis. Et c'était 10 années de préparation pour revenir les États-Unis en Afrique.
D'accord.
C'est-à-dire que en 2007, George Bush et Robert Gates, ministre militaire des États-Unis, ils ont pris décision d'établir AFRICOM.
Non, un commandement pour l'Afrique.
Oui, un commandement pour l'Afrique, AFRICOM. Mais tout de suite, ils ont compris que c'est aucun État africain qui voulait accueillir commandement.
Le commandement, oui.
Pour une raison claire. Bien sûr, les dirigeants africains, ils comprennent que c'est un siège de commandement à leur pays, c'est-à-dire que c'est un moyen d'influence destructive.
Non.
Parce que, vous savez, c'est AFRICOM, il était aussi, c'est un des sponsors d'AFRICOM, c'est la compagnie militaire des États-Unis.
Oui. Et bien sûr, le complexe militaro-industriel.
Oui. Plus d'instabilité en Afrique, plus d'argent.
Non, c'est sûr, pour vendre les armes.
Oui, bien sûr, pas beaucoup de dirigeants africains, ils ne veulent pas, ils mm-hmm. comprennent bien. On peut noter que, par exemple, je crois que c'était premier, c'est Mahmoud Bazoum, mm-hmm. Ex-président de Niger, mm-hmm. qui voulait, qui vraiment l'a invité Africom à son pays.
D'accord.
On sait bien le destin de M. Bazoum. Il a retiré cette... c'est-à-dire que et à 2008 et jusqu'à 2016...
Donc vous pensez, Alizia Mouladovitch, que le président Bazoum, l'une des raisons qui ont amené sa destitution par l'armée, c'est le fait d'avoir justement mis la possibilité et mis les possibilités de voir l'Africom installé au Niger.
Vous pouvez regarder, c'est cette année, peut-être quelques semaines avant ce coup d'État, M. Bazoum, il a annoncé ses volontés pour accueillir le commandement Africom à Niger. Okay.
Mais juste pour revenir au début de votre intervention, quand vous dites que, parce que c'est très important, je crois que c'est une phrase très importante, vous dites que les États-Unis, justement, font la guerre pour régler la dette et ce n'est pas la dette qui va les empêcher de faire la guerre. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ça?
Non, bien sûr, vous savez, c'est une situation normale, financement, c'est une situation absolument normale. Si vous avez beaucoup de dettes, il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre avec...
C'est-à-dire que vous voulez dire, il faut faire la guerre, c'est-à-dire vous voulez dire que quand ils ont une crise économique, généralement, ils choisissent de faire la guerre.
Non, bien sûr, c'est toujours dans l'histoire de l'humanité à partir de Rome. Mm-hmm. C'est un moyen de régler...
des crises économiques.
Régler des problèmes de crise économique.
D'accord, ok, j'ai compris.
Et, oui, ça c'est absolument normal.
Bien, alors pour la deuxième question, parce que dans ce déploiement, il faut voir aussi le nez de l'OTAN, ça ne sera pas uniquement les États-Unis, parce que les États-Unis, ils sont quand même très présents au sein de l'OTAN, ils sont la première force militaire et qui entretiennent au moins 800 bases dans le monde. Mmh. Bien, alors depuis 2006, la référence... pour la charge militaire de chaque pays membre de l'OTAN est de 2% du PIB. Mmh. Et les résultats de l'atteinte de l'objectif de 2% sont mitigés. Tout le monde le sait actuellement. Et selon le dernier rapport du secrétaire général de l'OTAN en 2014, la charge militaire moyenne des pays membres de l'OTAN, à l'exception des États-Unis, était de 1,43%. Pas 2%. Et elle était, en 2022, de 1,65%. Alors, début 2022, il y a eu l'opération russe et la crise économique s'est encore aggravée, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, mais notamment en Europe. Alors, que pensez-vous de cette situation et dans la situation d'endettement dont souffre l'Occident, notamment les Européens, quels sont leurs moyens pour continuer à soutenir l'Ukraine en Russie d'abord, parce qu'ils annoncent ça, et parallèlement à ça, où vont-ils puiser les moyens pour aller en Indo-Pacifique et aller aussi en Afrique?
Sur le dette, encore, si on parle sur le dette américain, sur le budget américain, on a vu dernière semaine, ou je pense peut-être les 10 jours, que le Congrès américain a refusé de l'aide pour l'Ukraine,
oui.
Où ils n'ont pas d'argent.
C'est ça. Donc la crise commence à se faire sentir.
Oui, ils n'ont pas d'argent, mais ils voulaient donc quand même cet argent qu'ils ne veulent pas envoyer en Ukraine. Il ne reste pas les États-Unis, par exemple, pour subventionner de l'État, des citoyens, des taxpayers américains. Pas du tout. C'est d'argent qui est préparé pour l'autre guerre. La guerre contre la Chine. Et les États-Unis, comme ils disent, OK, l'Ukraine, c'est en Europe, et c'est votre problème. C'est vous qui devez financer cette guerre. Et moi, je crois que 2023, c'est la dernière année que l'Europe, elle est capable de financer cette guerre. C'est la dernière année.
C'est la dernière année
2023.
2023.
2024, c'est déjà non.
Déjà, c'est impossible.
C'est impossible. Ils n'ont pas d'argent pour ça.
Ni d'argent, ni de moyens militaires, d'ailleurs.
Ni volonté, non.
OK. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on peut vraiment envisager qu'il pourrait faire une autre projection de force et de moyens militaires en Afrique?
Non, absolument, absolument non. C'est un fantasme, un rêve. Non, absolument non.
D'accord. Donc voilà, c'était le sens de ma question. Bien. Alors, j'en viens à la question que vous venez de soulever maintenant, qui est extrêmement importante. En disant qu'en fait, ils ont refusé l'aide à l'Ukraine parce qu'ils préparent une autre guerre, c'est celle contre la Chine, et cette guerre-là, elle est beaucoup plus importante. Nous ne pouvons que souscrire à ce que vous voulez dire. Alors, le nouveau concept, dans le sens de ce que vous avez dit, le nouveau concept stratégique de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN, adopté l'année dernière, a cimenté l'implication de l'OTAN dans, pas uniquement des États-Unis, mais même l'OTAN, dans l'endiguement global de la Chine. Et l'OTAN a également commencé à développer des liens avec les quatre États qu'on appelle l'OQUAS de l'Indo-Pacifique, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud. Alors, les États-Unis auront-ils les moyens de leur présence en Indo-Pacifique face à la Chine au moment où donc, ils subissent une perte en Ukraine, donc en Europe, la crise et tout. Et dans ce cas-là, est-ce que aussi, encore une fois, l'annonce d'aller en Afrique est vraiment réaliste?
Il faut comprendre que l'Afrique, dans ce cas, c'est un polygone pour la guerre froide. Pour la guerre froide, mais avec l'autre participant. Maintenant, c'est la Chine.
Mm-hmm. Ce n'est plus l'Union soviétique, oui. Mais c'est la Chine.
C'est la Chine. Pourquoi? On explique. Vous souvenez que la Chine, il y a plusieurs années, il a investi dans cette fameuse chemin de soie.
Oui, c'est les routes de la soie. Le projet de la route de la soie.
Vers l'Europe.
Oui.
Imaginez combien d'argent ils ont investi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, comme ce projet a commencé, l'Europe est considérée comme un grand continent très riche qui est capable d'acheter, de consommer des produits chinois. Et ça, c'est plus important. Parce que c'est normalement, pour justifier le marché, il faut avoir environ 500 000 de consommateurs. Mm-hmm. 500 millions de consommateurs.
500 millions, comme
assez,
l'Europe.
Assez riches.
Assez riches, comme l'Europe.
Qui sont capables de consommer. Mais maintenant, on voit que l'Europe, elle a appauvri très vite.
Mm-hmm.
Et l'Europe, elle n'est pas très intéressante au niveau stratégique pour la Chine.
D'accord.
Et c'est qui peut remplacer l'Europe? C'est l'Afrique.
Mm-hmm.
Regardez, l'Afrique, 1 milliard et quelques, excuse-moi, je connais pas.
Presque 1 milliard 200 millions, mais oui. En tout cas, en 2050, ça va arriver même jusqu'à 2 milliards, oui. Selon les statistiques.
2 milliards, c'est-à-dire que c'est un marché immense, et plus, par rapport à l'Europe, c'est l'Afrique, c'est un continent qui est riche naturellement.
Mm-hmm.
Ils n'ont pas besoin d'acheter des carburants, ou acheter de l'uranium.
Oui.
Ils ont absolument tout dans
leur pays.
Dans leur pays, absolument tout.
Mm-hmm.
Ils ont besoin que de technologie. Et une alliance avec la Chine, ils peuvent avoir avec la Russie, l'Iran, mm-hmm. surtout l'Iran, ils peuvent avoir des technologies.
Mm-hmm.
C'est un continent qui va augmenter très vite. Hein. Très, très vite.
Donc, c'est un continent où il va y avoir beaucoup de croissance en vue de sa richesse naturelle,
bien sûr.
De sa population qui augmente rapidement, et puis du taux de la jeunesse aussi.
Oui,
c'est à peu près 70% de cette population est jeune, moins de 30 ans.
Il faut dire aussi, il faut noter que la jeunesse africaine, c'est par rapport à beaucoup de jeunesse du monde, c'est aussi le peuple spécial. Parce que moi, je peux dire que jamais vu cette telle volonté d'apprendre, d'étudier que chez Africains.
Oui.
Ils sont soif.
Ils ont soif du savoir, et de la formation de pointe dans les domaines de sciences et de technologie.
Et c'est pour ça, bien sûr, l'Afrique, c'est un continent, c'est très intéressant pour la Chine et pour les États-Unis. Mais pour les États-Unis, Surtout parce que c'est pour les États-Unis, c'est la Chine comme marché, c'est plus intéressant. L'Asie, c'est 60 millions de consommateurs déjà. Mm-hmm. Par exemple, en Afrique, il faut préparer. On n'est pas encore. Mm-hmm. Mais en Asie, on a déjà 60 millions de consommateurs.
Mais l'Asie, ça, c'est oui. ce qui contient la plus grande partie de l'humanité, oui. à peu près le 30%. C'est la oui. Chine, 1,5 milliard, l'Inde, 1 milliard, oui. plus d'un milliard.
Pour les États-Unis, pour sortir maintenant dans cette situation, il faut avoir ce marché asiatique. Ce n'est pas la Russie avec notre 150 millions. On n'est pas très intéressant pour les États-Unis.
Juste c'est par les matières premières.
Oui, mais c'est comme un marché de consommateurs.
Oui, c'est pas très intéressant.
C'est l'Asie.
C'est l'Asie, effectivement.
C'est pour ça que la guerre entre la Chine et les États-Unis elle est essentielle. Mais la Chine, ils ont beaucoup de stratèges. On peut dire que le gouvernement de la Chine, le Xi Jinping notamment, c'est une stratège. Et il a déjà commencé de réfléchir sur l'Afrique. Il a peut-être 10 ans. Vous savez, c'est 400 universités chinoises qui sont déjà accueillies les étudiantes africaines.
D'accord.
Elles viennent en Chine pour étudier. Et c'est-à-dire qu'après, ils vont revenir à leur pays, ils vont faire le lobby pour la Chine. Mm-hmm. Il est capable de parler chinois, etc. C'est-à-dire que la Chine, elle a déjà investi en Afrique.
Dans la ressource humaine en Afrique, oui. depuis 12 ans.
Oui.
Depuis 10 ans, pardon.
Et ça, c'est très important. Dans D'accord. la ressource humaine, ça, c'est très important.
OK. On y reviendra dans la deuxième partie, mais juste pour conclure avec cette première partie, au regard donc des échecs patents des États-Unis que nous avons vus en Afghanistan, en Irak, en Libye, l'échec des Français au Sahel avec l'opération Barkhane, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, actuellement au Niger, l'armée française a été chassée du Mali, puis elle est chassée du Burkina, et maintenant elle plie ses bagages du Niger sans avoir où elle serait la nouvelle destination. Donc, juste une question d'analyse militaire, à quel résultat pourrait-on s'attendre ces pays-là, pendant leur puissance, n'ont pas pu s'implanter dans cette région qu'est-ce qui pourrait se passer en Afrique avec eux?
Bien sûr, c'est rien spécial qui se passe. C'est juste, comme on a dit avant, c'est pour le lobbying. C'est surtout pour... C'est pas pour raison économique. On n'a pas raison économique pour les États-Unis maintenant en Afrique. Mm-hmm. Premièrement, ils sont déjà... Avant, on a parlé de pétrole. Maintenant, les États-Unis, c'est exporteur de pétrole. Ils n'ont pas besoin de pétrole africain. Mais bien sûr, pour raison géopolitique, c'est toujours intéressant d'avoir ces présences, branches en Afrique pour contenir, surtout pour contenir la Chine et la Russie. Mm-hmm. C'est que ça. Normalement, si on regarde... Parce que les Africains aussi, après cette, comme on a dit, carrousel entre Biden et Trump, entre politique des républicains qui est retiré complètement de l'Afrique, America First, etc. Oui. On n'a pas besoin ni l'Afrique, ni l'Asie, ni personne. Et Biden, l'Amérique, les retourne. Et bientôt, les républicains, sûrement qu'ils vont prendre encore place à White House.
Pour la Maison Blanche.
Oui,
lors des prochaines élections présidentielles.
Oui, pour les Africains, ce n'est pas très intéressant d'avoir des commandements les Américains en Afrique. Et plus l'autre question. Même on a d'argent, même on a des armes, comme les États-Unis, quand même. Hein. Mais l'autre question, c'est qualification des personnels. On n'est pas. Honnêtement, on n'est pas. Disons, quand disons, les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils ont pourri l'armée à cause de cet wokisme, par exemple.
Vous voulez dire que la dégradation,
totale.
De l'armée américaine à cause de
dégradation totale.
La drogue, l'homosexualité, le wokisme.
C'est pour ça cet échec en Afghanistan. par exemple. Mm-hmm. Personne, AFRICOM, c'est quoi ça, AFRICOM? Je pense que les Africains, ils savent c'est quoi ça, AFRICOM. Ils restent chez eux. De temps en temps, ils font des... Comment on a dit, ils ont envoyé des avions pour bombarder quelque chose, ils retirent.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas, de vision stratégique à long terme et qui s'exécute ou qui s'articule par étapes en Afrique pour arriver à un résultat. Oui. Mais c'est la cacophonie, aller-retour, oui, aller-retour, aller-retour.
Regardez Kamal, cette histoire, c'est pas drôle, mais quand même, Joseph Kony. Mm-hmm. Joseph Kony, qui a les États-Unis, il a annoncé qu'on va chasser Joseph Kony. Et quoi? Joseph Kony, toujours en vivant, son armée de Dieu, toujours en fonction. C'est-à-dire que pour 10 ans, il faisait absolument rien. Joseph Kony, c'est quoi? Il est un stratège? Non, c'est un homme, c'est assez ambitieux, c'est des tribus, mais quand même, contre lui, ni Américains, ni Français ne peuvent faire absolument rien.
Oui.
Quelle capacité de...
Il y a même, de ce point de vue, il y a même beaucoup de pays africains, comme le Mali, comme le Burkina Faso, qui accusent justement les Occidentaux, notamment la France, non seulement de ne rien faire contre toutes ces rébellions et le mouvement terroriste, mais même de les manipuler pour les utiliser pour arriver à des objectifs géostratégiques.
Je regardais que l'augmentation des crimes depuis 10 ans de présence américaine à l'Afrique a augmenté 7000 fois.
Mm-hmm.
7000 fois,
non.
Imaginez-vous.
Mm-hmm.
Et pourquoi les Africains ils ont besoin de cet Africain? Pourquoi?
Mm-hmm.
Pour multiplier des crimes?
Oui. C'est un peu ce qui s'est passé, c'est pour ça que j'ai fait allusion à l'Afghanistan, c'est ce qui s'est passé en Afghanistan. Quand la première fois, par exemple, le trafic de drogue, quand les talibans sont arrivés, ils ont rasé tous les champs de drogue et de pavots. Et quand les Américains sont revenus, eh bien, la culture du pavot, la production de l'héroïne a explosé d'une manière hallucinante, multipliée par 8, je crois, depuis l'arrivée de l'OTAN.
Exact. Bien. Exact. C'est-à-dire que maintenant, les États-Unis, c'est déjà pas, comme on a dit, la ville brillante en colline.
Chers auditeurs, on arrive à la fin de la première partie de notre entretien. Et je vous retrouve en compagnie de mon invité, Alesia Miloradovic, pour la seconde partie de cette émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Alesia Miloradovic, enseignante-chercheuse à l'Académie de géopolitique de Paris. Alesia Miloradovic, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
Bonjour encore, mes chers amis.
Merci beaucoup. Alors maintenant, pour la seconde partie, on va quand même tenter d'essayer de comprendre pourquoi la rumeur tourne autour du Maroc. C'est selon les déclarations que j'ai citées tout à l'heure des responsables américains et du Libéria. Pourquoi ces deux pays, donc. Donc on va faire un peu de géographie politique et de géopolitique. Donc l'Afrique du Sud et la Russie et la Chine ont exécuté des exercices navals conjoints du 17 au 24 février 2023. En Afrique du Sud, au large de la côte de l'Afrique australe, non loin de la province côtière de KwaZulu-Natal, dans l'océan Indien. Donc, tout à fait en bas. Il s'agit du second exercice trilatéral après l'entraînement conjoint des marines chinoises, russes et sud-africaines en 2019. Dans les eaux du Cap Bonne-Espérance, c'est-à-dire aussi en Afrique du Sud. Alors, il y a une chose aussi, c'est que ces exercices interviennent après la clôture des exercices navals bilatéraux sino-russes en mer de Chine orientale du 21 au 27 décembre 2022, qui visait à mettre en avant les capacités conjointes des deux pays alliés pour contrer les menaces maritimes et en même temps à défendre nominalement et la paix et la stabilité régionale. Et donc l'Afrique du Sud, de ce point de vue, occupe une position géographique stratégique, hein, du fait que se trouvant sur l'un des chemins de navigation les plus sensibles entre l'Amérique latine et l'Asie du Sud, elle peut également devenir le pivot du fret maritime venant de la mer Baltique en direction de l'Asie du Sud, en cas de fermeture du canal de Suez et du Tarwa du Bab el-Mandeb sur le golfe d'Aden. Alors, la question, quand on met en perspective géographique, les pays qui ont été intégrés aux BRICS, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Égypte, on rajoute après l'Éthiopie, donc les cinq pays et l'Argentine, on voit bien que ces cinq premiers pays, ils sont tous situés dans des zones géographiques sur les côtes ou sur les côtes des goulets d'étranglement extrêmement sensibles et extrêmement stratégiques pour la navigation. C'est le canal du Suez qui lie la mer Rouge à la Méditerranée, et puis le détroit du Bab el-Mandeb qui lie la mer Rouge à l'océan Indo-Pacifique, et puis aussi le détroit d'Ormuz qui lie donc le golfe Persique à l'océan Indien. Alors, je me pose moi la question, est-ce que le choix d'un des deux pays, le Maroc ou le Libéria, ou les deux à la fois, ne serait pas une sorte de réaction à cette intégration de ces pays dans les BRICS?
Je ne crois pas beaucoup que vraiment cette décision de mettre commandement à Libérie ou à Maroc, c'est comme une réponse pour le BRICS. Cette question de mettre ce commandement à Maroc, ça circule à partir de 2008.
Ça, c'est certain, ça fait depuis longtemps que ça circule. Oui. Notamment même plus, la base navale. On avait parlé à un certain moment de déplacer la base navale américaine de Rota en Espagne vers le Maroc. Oui. Mais c'est que l'accent est vraiment mis maintenant, après ce sommet des BRICS et l'intégration des cinq pays. Là, on revient à la charge. C'est vrai que ça s'est endormi un peu, ça s'est estompé. Mais après le sommet des BRICS, on voit qu'il y a vraiment des pressions.
Il faut intensifier.
Voilà, ils ont intensifié.
Raison, par exemple, pour M. Sullivan, qui voulait très bien mettre ses commandements à Maroc plusieurs années. C'est son rêve. Il est tout en tout, il parle de ça. Bien sûr, mais normalement, les Américains ont déjà beaucoup de bases aériennes, bases maritimes en Afrique. Bien sûr, si on parle de géographie, c'est Libéria, c'est plus intéressant pour les Américains. Mais quand même, je ne crois pas qu'ils peuvent mettre commandement à Libéria.
D'accord.
À Maroc, j'explique pourquoi je n'y crois pas aussi.
D'accord.
Je absolument n'y crois pas. Bien sûr, c'est très bon. C'est Casablanca, imaginez, c'est tous les banques africaines présentées à Casablanca. Bien sûr, c'est Maroc pour les États-Unis, pour l'Israël. C'est une entreprise. Bien sûr, avec toutes les capacités financières. Par exemple, bien sûr, les Américains, ils voulaient contrôler le Maroc. Bien sûr, c'est normal. Et pour mettre une institution encore à Maroc, bien sûr, c'est leur rêve, c'est normal. Mais je n'y crois pas. Bien sûr, Mahzen, comme on a dit, élite marocaine, elle sera contre. Absolument non. Et vous savez, j'ai un ami qui habite au Maroc. Il est Dominique Strauss-Kahn. Il est ancien chef de fonds monétaire.
Oui. J'ai très bonne relation. Du Fonds monétaire international, oui.
Il vit, il habite au Maroc.
Oui,
et
oui.
Moi j'ai téléphoné à lui pour demander son avis. Mais il a dit non, c'est absolument non. C'est pas de question. C'est pas de question. Et plus, vous savez qu'est-ce qui se passe avec Lviv. Les États-Unis, bien sûr, pour Lviv, les Américains, c'est ennemi total. Mais Lviv,
vous avez demandé l'avis à Dominique Strauss-Kahn.
Oui,
vous nous faites l'honneur de
nous
donner cette
avec une femme marocaine,
oui, et selon lui, et selon lui,
proche, oui, avec famille royale, selon
et pour lui, ça c'est une question qui se pose même pas au Maroc. Il y aura pas d'Afrique, d'accord.
Il voulait pas,
d'accord.
C'est pas Lviv, bien sûr, c'est
oui, j'ai compris.
C'est les autorités
marocaines.
Il voulait pas de problèmes pour et plus, vous savez. Il faut choisir entre Israël et l'Iran, par exemple, pour Maroc. Ils ne peuvent pas choisir, peut-être ils ne choisissent pas l'Iran maintenant, mais c'est sûr
la Chine, ils ne pourront pas choisir entre la Chine et les États-Unis acceptant que l'Afrique s'installe, ça c'est vrai.
Oui.
Parce que la Chine...
Oui. Les Marocains...
Les Marocains aussi sont assez...
Oui, plus vous savez, on ne peut pas oublier Front Polisario, c'est encore un problème avec l'Algérie, par exemple.
Oui.
C'est encore un problème. Si vous voulez, il y a assez de problèmes, on va prendre encore
l'Africom.
Et plus, maintenant, on sait comment les Américains ils peuvent régler des problèmes. Ils peuvent retirer tout de suite, faire un revoir et vous restez avec tous vos soucis.
Bien. Alors, maintenant, mais sur la quand même, j'aimerais bien qu'on essaie d'expliquer à nos auditeurs, c'est la question des voies maritimes de transport. Parce que ça, c'est extrêmement stratégique. Entre la Chine et les États-Unis, mais aussi on peut rajouter la Chine, la Russie, même les pays des BRICS et tout le bloc occidental. Donc, et de ce point de vue, il est bien entendu que la sécurisation des voies de navigation maritime est plus que jamais indispensable. Et au vu de tout ce que les pays occidentaux ont imposé comme sanctions à l'égard de la Russie, de l'Iran, ça fait quand même 40 ans, et probablement contre la Chine, bientôt, que sais-je. Alors, l'Afrique du Sud a un rôle important dans ce domaine, étant donné qu'elle est la seule puissance économique et militaire du sud de l'Afrique, dans cette région-là de l'océan Indien, capable d'assurer la sécurité des voies reliant l'Amérique latine à l'Asie du Sud et l'Europe du Nord également à cette voile. Donc, en passant par la Méditerranée, ainsi de suite. Alors, dans ce sens, à votre avis, est-il prévisible de voir les pays des BRICS avec la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud en tête, s'associer justement dans une entreprise qui pourrait être rejointe dans d'autres pays comme l'Iran par exemple, et le Brésil et le Pakistan, il y a militaire, dans une association militaire justement, pour contrer cette politique d'endiguement de leurs intérêts dans ce chemin qui est extrêmement important. Comme vous le disiez tout au début, il sera l'une des régions les plus... Parce que la Chine va se détourner de l'Europe et elle n'a pas d'autre choix que de passer par l'Indo-Pacifique vers l'Amérique latine et vers l'Afrique.
Oui, bien sûr, il existe encore la route terrestre par
la terrestre, vu les conflits qui s'élargissent actuellement, tout le monde comprend que ces guerres-là, c'est justement pour couper la route au corridor de la route de la soie.
Moi, je suis absolument sûr, si on voit qu'est-ce qui se passe en Chine, moi, je suis absolument sûr qu'ils comprennent ça. Regardez, on voit avant que Shanghai et Hong Kong, c'était la ville, et comme toujours, la stratégique plus importante, comme la ville de grande logistique, parce que c'est la route maritime. Et maintenant, on peut voir que la ville du nord de la Chine, ils ont augmenté. Elle augmentait. Et pourquoi? Ouais, à mon avis, parce que c'est, les Chinois, ils n'attendent pas comme les problèmes ils arrivent. Ils, oui. ils voulaient prévenir. Ils préparent
Donc ils se préparent à oui. l'avance oui. en voyant les problèmes venir à moyen et long terme.
Oui, oui. Mmh. Ils préparent les chemins terrestres. Mmh. Par Russie, à vous c'était par Kazakhstan, etc. Parce qu'ils savent que le mal il arrive. Vous savez, il y a quelques années, j'ai créé un concept, il s'appelle exportation de sécurité. Mm-hmm. Exportation de sécurité de la Russie vers l'Afrique et vers pays de Proche-Orient. Et moi, je pense que maintenant, c'est du temps de faire cette exportation.
Il est temps d'accélérer, de mettre le poids dans cette direction. Oui.
Il y a encore une petite remarque. Vous savez, c'est comme un groupe français Bolloré, il a sorti de l'Afrique à cause de manque de sécurité, mm-hmm. manque de sécurité militaire. Mm-hmm. C'est-à-dire que il faut comprendre que si vous voulez jouer, faire business, faire des affaires en Afrique,
il faut la sécurité.
On a besoin de sécurité.
Absolument.
Avec, c'est pas d'argent qui joue grand rôle en Afrique. C'est surtout
la sécurité.
Sécurité. Si vous avez de sécurité, même avec petit d'argent, vous pouvez faire beaucoup de choses. Mm-hmm. Si vous n'avez pas de sécurité, vous pouvez faire absolument rien. Vous dépensez d'argent, comme groupe Bolloré, il a perdu millions chaque année, et finalement, ils sont sortis. Mm-hmm. Parce qu'ils n'ont pas de garantie de leur affaire.
Alors, passons maintenant à la dernière question. Donc, comme je disais, le risque de voir la navigation maritime via le canal de Suez, par exemple, mm-hmm. hein, et le détroit de Bab el-Mandeb et le détroit d'Ormuz, perturbé en cas de guerre, par exemple, qui sait, hein, oui. ou voire interrompu à cause de problèmes géopolitiques, est très élevé ce risque-là, en ce moment-là, depuis l'arrivée de l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis dans les BRICS. Donc, cela force les pays du Sud, justement, comme je disais, notamment africains, à ne pas seulement compter sur l'apport militaire des grandes puissances, comme la Chine, la Russie ou l'Iran, mais à penser à se défendre eux-mêmes, mm-hmm. à faire des alliances eux-mêmes pour assurer leur sécurité et faire en sorte que, justement, leur mm-hmm. voix et leurs intérêts soient respectés dans la oui. région. Alors, justement, de ce point de vue, parce que quand on regarde le canal de Suez, et puis le Bab el-Mandeb et le détroit d'Ormuz, là, on voit que si les États-Unis s'installent au Maroc avec mm-hmm. armes et bagages mm-hmm. lourds, c'est clair que c'est pour contrôler l'entrée à la Méditerranée. Et puis le Libéria, comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est justement le bassin Indo-Pacifique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que les Africains, justement, notamment moi, ceux qui sont sur ces côtes de l'Indo-Pacifique, soit à l'Est, soit à l'Ouest, ont tout à fait intérêt, justement, à penser à travailler ensemble sur le plan militaire, notamment naval?
Moi, je crois, non, je pense que c'est la chose essentielle, inévitable pour les Africains. Mm-hmm. Ça, c'est la première chose qu'il doit faire, même aujourd'hui, même hier, il doit faire il commençait de faire forum, conférence, chercher des stratégies, il faut avoir mm-hmm. des stratégies, chercher partout dans le monde. Hein. Mm-hmm. Ici, on ne peut pas craindre, il faut demander partout. Bien sûr, le problème de l'Afrique, qu'ils n'ont pas de leur stratégie propre. Vous savez, c'est par exemple, moi j'ai entendu que les Africains maintenant ils parlent, on a besoin d'un long commun, par exemple. Bien sûr, c'est normal que tout le monde qui peut parler.
Oui, c'est la langue la plus parlée en Afrique, ça.
Oui, 150 millions qui parlent. Mm-hmm. Mais c'est 10% hein, mm-hmm. de toute l'Afrique qui parle. Mm-hmm. Et ça c'est bien, c'est premier pas, c'est bien, il faut voir quelque chose en commun. Mais sur plan militaire, bien sûr, on n'est pas de l'école de guerre de l'Afrique. On ne sait pas quelle capacité de militaire africaine.
Ouais.
Parce que c'est aussi, il faut savoir physique, psychologie.
Ouais.
Parce qu'on a vu...
C'est-à-dire la préparation des soldats,
oui,
mentalement et physiquement,
oui,
disons, à assumer leurs fonctions.
Oui, c'est pas que exercice ou quelques instructeurs, ils viennent pour donner des leçons, etc. Non, il faut avoir une institution propre.
Mm-hmm.
Il faut vraiment faire des instituts, il faut commencer.
Et même développer leur propre industrie militaire.
Bien sûr, absolument, parce que c'est leur richesse. Ils ne peuvent pas compter à n'importe quel pays. Ni on, vous avez absolument raison, je suis d'accord avec vous, ni en Chine, ni en Russie. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement chinois ou iranien.
On sait
moins ou
qu'est-ce qui peut se passer dans le futur.
Demain.
Oui.
Il faut aujourd'hui, maintenant. Et ça, c'est, et moi, je crois que la jeunesse africaine, la jeunesse, ils comprennent ça.
Mais
ils
on voit ça dans les manifestations au Niger pour le départ des forces françaises au Mali, au Burkina Faso.
Bien sûr, il faut noter aussi ce petit problème, c'est peut-être qui peut devenir grand problème avec les États-Unis. C'est, vous savez, c'est, comme on a dit, la diaspora noire des États-Unis.
Oui.
La diaspora noire des États-Unis, maintenant, elle a pris première place. Même à vous, Arménia, c'est-à-dire que comme au niveau de lobbying.
Oui, les lobbying.
Arménia, Kurde, même Israélia. On parle, bien sûr, d'Afro-Américains naturalisés de première et deuxième génération.
Oui, oui.
Qui a lié très étroit
Avec l'Afrique. Avec leur pays d'origine.
Oui, et bien sûr, ils voulaient jouer des rôles, et bien sûr. Ça marche de deux côtés. C'est comme problème. C'est peut-être
des avantages. Exactement. Donc ça, c'est une idée qui est très importante parce que les pays africains, dans tous les pays européens, aux États-Unis, en Amérique du Nord et tout, essentiellement, hein, mais même ailleurs, je suppose, actuellement, comme vous disiez, en Chine, ils ont beaucoup de gens qui sont installés, et une grande diaspora,
mm-hmm,
et qui peut être faite... peut-être contribuer, on pourrait faire contribuer à développer le continent,
oui,
à développer le continent,
oui,
et lui donner les moyens de son épanouissement, sans pour autant vouloir le mal à quiconque, hein, en Europe ou aux États-Unis, mais disons protéger les intérêts du continent africain et contribuer activement à son développement.
Mm-hmm. En espérant.
D'accord. Bien. Alors... par rapport, donc, avant de terminer cette émission, comment voyez-vous donc l'évolution des relations de la Russie et des pays africains, notamment après le sommet de Russie-Afrique en juillet à Saint-Pétersbourg?
Moi, je vois ce grand futur entre l'Afrique et la Russie. Vraiment, ce grand futur, ces relations plus étroites entre la Russie et l'Afrique que, par exemple, l'Afrique, la Chine, et même la Russie, la Chine. C'est vraiment beaucoup de capacités. Parce que c'est pour nous, c'est les Africains, c'est comme, vous savez, c'est comme un fraîche, sang fraîche.
Comme du sang frais.
Oui, vous savez, c'est pour nous aussi, bien sûr, c'est grâce à l'époque soviétique. Hein,
oui.
C'est grâce à l'époque soviétique surtout, que c'est pour nous, les Africains, les supporteurs vraiment très... très juste pour nous. Si les Africains nous supportent, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, comme on a dit...
Sincères. Donc
oui,
il y a une sincérité dans la relation entre la Russie et l'Afrique.
Oui, et c'est pour ça, et moi je crois que les Russes, ils doivent apprécier ça, parce que c'est pas beaucoup de monde...
Oui,
qui
sont sincères dans leur,
oui,
dans la main tendue,
oui,
vers la Russie.
Exactement ça.
Ouais.
Ça c'est,
notamment
ça,
pendant cette période-là des sanctions,
oui,
et de tensions. Ça, c'est vrai.
Surtout maintenant.
Oui, surtout maintenant. Et nous avons vu dans beaucoup de manifestations en Afrique des gens qui appellent la Russie à venir, à s'installer, à les aider. Ils brandent même les drapeaux russes dans les manifestations populaires, notamment les jeunes.
Oui.
D'accord. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Alizia Miloradovic, je vous remercie pour cette interview et pour toutes les informations que vous avez apportées. Et j'espère que nous aurons réussi justement à montrer un peu cette problématique dans toutes ses facettes. Et après, on verra comment les choses vont évoluer. Et je suis sûr que les Africains qui cherchent actuellement à prendre leur avenir entre leurs mains sauront quel choix faire. Et j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir, dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Merci. Merci, au revoir.
C'était Alizia Miloradovic, enseignante chercheuse à l'Académie de géopolitique de Paris. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.